Bonjour, mon nom est Jeanne-Hélène et bienvenue à mon podcast « C'est juste une croyance ». Aujourd'hui, on fait le voyage au pays de mes croyances, celles qui m'ont maintenue dans la consommation d'alcool de l'âge de 12 à 49 ans.
Elle vit au merveilleux pays de l'état d'hypnose et découvre les trésors cachés dans votre inconscient. Elle rit, elle aime, elle respire, elle creuse, elle transforme et transitionne et rit encore. Et elle sait plus que tout que c'est juste une croyance.
Avant de plonger dans cette histoire, je vous rappelle que j'offre un 30 minutes gratuit si vous souhaitez discuter avec moi de vos enjeux et de voir comment la technique RTT plus le coaching et les autres outils que j'ai peuvent vous aider à réaliser la vie que vous souhaitez réaliser, la vie que vous méritez. Quand j'ai décidé de plonger au cœur des croyances qui m'ont maintenue dans la consommation d'alcool, je me demandais comment j'allais vous présenter ça et j'ai décidé de le faire chronologiquement pour que vous puissiez voir comment ça a évolué. Puis peut-être que ça va vous parler. Je commence peut-être par la définition de l'addiction, celle qui me convient le mieux, celle du docteur Gabor Maté, de Tommy Rosen aussi, qui est finalement une habitude qu'on continue de faire malgré les conséquences négatives dans notre vie. C'est simple, hein? Les habitudes qu'on continue de faire malgré les conséquences négatives dans notre vie. On est loin de parler de déchéance totale ici. On parle simplement d'habitudes qu'on continue de faire malgré les conséquences négatives dans notre vie. Au compte de ces habitudes, il y a 5 familles d'addictions. La première, technologie. Je la nomme en premier parce que je soupçonne que ce confinement qu'on a vécu cette dernière année de COVID et on ne sait pas ce qu'il y a devant nous, a considérablement augmenté le temps d'écran pour plusieurs personnes qui peut insidieusement devenir une addiction. Ensuite, il y a tout ce qui est lié à la nourriture, qui est le deuxième. Le troisième, c'est ce qui est lié à l'argent, le gambling, les dépenses en ligne, etc. Le quatrième qui est lié aux personnes, pornographie, dépendance affective, etc. Et le cinquième qui est celui des substances, drogue, alcool et toute autre substance. Dans plusieurs présentations du docteur Maté et Tommy Rosen le fait aussi et je trouve ça fantastique, il pose toujours la question aux gens devant un auditoire, levez la main ceux d'entre vous qui n'ont pas d'addiction, qui n'ont pas de dépendance. Et bon, il y a toujours un certain pourcentage de personnes qui lèvent la main et puis dit « OK, c'est bien ». Et là, ensuite, évidemment, ils font la présentation des catégories de dépendance, des catégories d'addiction. Et ça devient clair qu'à la fin, il n'y a presque plus personne, en fait, qui lève la main. C'est-à-dire que, puis on peut dire oui, s'ils sont dans un séminaire de ce type-là, c'est certainement qu'ils ont des enjeux, effectivement. Mais je crois évidemment qu'un grand pourcentage de la population est pris dans des habitudes qu'on continue de faire malgré les conséquences négatives dans notre vie. Comment ça a commencé pour moi? Ben, ça a commencé à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, en fait, dans ma famille, il n'y avait pas d'alcool dans la maison. Il y avait une bouteille. Je ne sais pas si ça a été éclairci avec ma famille qui avait bu cette bouteille, mais en tout cas, si ça n'avait pas été éclairci, là, ça va l'être. C'était moi. En fait, il y avait une seule bouteille d'alcool dans la maison et c'était une bouteille de whisky canadien que mon père avait eu en cadeau, un cadeau corporatif, je crois, qui était dans une pochette mauve. Et je me souviens très bien de délier la pochette. Et ce geste-là, c'est un geste qui m'est vraiment resté en mémoire, de délier le petit cordon doré, de prendre la bouteille en cachette dans le buffet noir et de prendre quelques gorgées avant d'aller à l'école. La croyance derrière ça, c'était « ça me détend ». C'était « ça me donne du courage pour affronter ma journée et ça me permet d'être socialement lubrifiée dans la mesure de me sentir capable de connecter avec mon environnement. J'étais très anxieuse et ce n'est que maintenant que je réalise à quel point j'étais une adolescente, une enfant et une jeune adulte et une adulte anxieuse. C'est au moment où j'ai étudié l'anxiété avec l'Institut Beck. Je me suis spécialisée notamment en thérapie cognitive comportementale en anxiété. Et c'est quand j'ai fait ce cours-là que j'ai vu à quel point j'avais moi-même eu beaucoup d'anxiété, notamment de l'anxiété sociale. Et donc, cet alcool, à ce moment-là, me donnait... Je me souviens du... après avoir pris l'alcool, qui était presque instantané, qui était vraiment juste dans ma tête, en réalité, mais qui me donnait l'illusion que ça me donnait relaxer. Et puis aussi, ça m'amenait de l'attention. Parce que comme j'avais développé des difficultés relationnelles, des difficultés émotives, émotionnelles, anxieuse, mais ça m'apportait un peu d'attention. Tu sais, j'avais le psychologue de l'école qui m'aidait. À l'époque, il y avait comme une pastorale. Je suis allée dans une école où il y avait une représentante pastorale et puis je pouvais aller me confier. Donc, ça m'amenait de l'attention aussi. Donc, derrière ça, il y avait la croyance, si j'ai des problèmes, si j'ai des enjeux, je vais avoir de l'attention. Je trouvais que j'avais peut-être pas assez d'attention à l'époque. Et l'alcool me donne de la confiance, l'alcool me donne du lubrifiant social, c'est me sentir plus à l'aise socialement. Je me sentais vraiment pas à l'aise socialement. Et est arrivée la période plus tard, un peu adolescente, où là, l'alcool m'a servi à être drôle, à faire partie de la gang, à être comme tout le monde. Donc là encore, il y avait cette espèce d'enjeu de dire, ben, je suis pas assez ce que je suis pas assez drôle, je fais pas assez partie de la gang, je suis trop nerd. Donc l'alcool me servait à m'adapter à la gang, à m'adapter au groupe le plus populaire pour faire partie finalement du groupe. On avance un peu, je suis une jeune adulte et là, c'est les années de consommation d'alcool qui sont ce que j'appelle la grande jeune vie. Quand on est au début de la vingtaine puis qu'on fly, on voyage, on a des amis, on est comme hot et on a des conversations pour pouvoir changer le monde. Et là, vraiment, je me souviens à cet âge-là à quel point j'ai commencé à avoir la croyance que l'alcool me rendait intelligente, que l'alcool me rendait intéressante, que quand je prenais de l'alcool avec mes amis et qu'on s'assoyait, je me souviens notamment à Banff avec mes amis, on refaisait le monde avec nos conversations, puis j'avais vraiment l'impression que l'alcool me donnait cette capacité d'être plus que ce que je ressentais à l'intérieur de moi, donc plus intelligente, plus intéressante. Ensuite, évidemment, sont arrivées mes années de famille où en fait, je rentrais du travail avec... il y avait les enfants de mon conjoint. Là, c'était les années où est-ce que ça me fait relaxer. Ça me fait me détendre. Ça me permet d'échapper à ma journée. Puis encore là, toujours cet aspect de j'ai des idées, je suis intéressante, je suis intelligente quand je bois. Ça me permettait aussi à cette époque-là où j'avais commencé à avoir de plus grands moyens, donc à boire des meilleures bouteilles. Donc, il y avait comme une espèce de, pas de snobisme, mais une espèce de je suis mieux que. Non seulement j'étais pas assez, mais là, je devenais mieux que. Parce que je buvais des grands crus, parce que, ben, des grands crus pour moi. Et surtout, en fait, ça me permettait, quand j'arrivais de la maison, de décrocher. Donc, la croyance derrière ça, c'était l'alcool me fait décrocher, l'alcool me donne un certain statut. Et encore, toujours cette idée, je peux écrire, j'ai des idées quand je prends de l'alcool, etc. Et on sait très bien maintenant que c'est absolument faux, c'est des croyances vraiment fausses, mais on y croit. À cette époque-là, a commencé aussi à atterrir chez moi l'idée que l'alcool était devenu mon compagnon. Je me sentais moins seule. C'est là, je dirais, fin trentaine, que l'alcool est devenu un compagnon. Compagnon de piscine, compagnon sur un vol, compagnon de soirée, compagnon de... Il y avait quelque chose là où, en fait, cette grande solitude que j'avais à l'intérieur de moi, depuis toujours, j'étais enfant et je m'enfermais dans ma chambre à dessiner et à lire, mais cette grande solitude-là, que je ressentais ce vide-là, ben, en fait, j'allais le combler avec de l'alcool et en croyant que ça allait régler l'enjeu. J'étais pas consciente à cette époque-là. Si vous voyez le chemin jusqu'à présent, tout au long, il y a toujours un avantage, il y a toujours un bénéfice perçu de cette consommation d'alcool. Très inconscient, c'est maintenant avec mon conscient, puis quelques années de sobriété que je peux faire ce chemin-là. Mes chemins que j'étais incapable de faire il y a même 3 ans. Et là, arrive la quarantaine, je deviens célibataire et c'est ce que j'appelle la grande débandade. C'est-à-dire que de 40 à 49 ans, ma consommation d'alcool a augmenté de façon drastique, dramatique et effrénée. Et là, c'était « je fais un peu de sous, je voyage, je suis hot ». Je suis célibataire, whatever, et je dépense, et tout est venu avec. En fait, toutes ces idées que là, j'étais une femme libérée, j'étais libre. Là, j'étais une femme à 40 ans qui se retrouve célibataire. Je pourrais écrire là-dessus éventuellement ou en parler dans un podcast, mais il y a quelque chose au niveau de cet âge-là qui fait qu'on se sent vraiment différente. Et je me souviens de cette espèce de griserie. Et je dirais que les 9 années ont été des années au départ de griserie, ensuite d'extrême solitude. Et tranquillement, cet ami-là qui était l'alcool est devenu vraiment un ennemi. Et je me souviens que là, c'est là que j'ai construit la croyance « je ne serai jamais capable d'arrêter ». C'est impossible pour moi de ne pas boire d'alcool une seule journée. C'est impossible pour moi de prendre un repas sans prendre de l'alcool. C'est impossible pour moi d'aller dans une soirée où il n'y a pas d'alcool. C'est impossible pour moi même de penser qu'un jour je pourrais ne pas boire d'alcool. Alors à ce moment-là, ces croyances-là se sont vraiment cristallisées chez moi. J'en étais vraiment convaincue. Et bien que je me rendais compte que c'était trop, parce que je faisais des tentatives, exemple, je vais boire juste la moitié de la bouteille ou je vais boire juste le week-end, ça ne fonctionnait pas. Donc, ma croyance était que ben, je vais continuer à boire tout le temps puis je vais contrôler ça autant que je peux. Et la solitude, cette espèce de solitude en dernier, en fait, je buvais presque seule toujours et j'étais presque seule toujours. Et c'était mon anxiété sociale qui était revenue. C'est un peu une drôle de boucle, hein? Au départ, on boit parce qu'on est seul, parce qu'on s'en seul, puis finalement, on est de plus en plus seul. Et quand j'analyse tout ça, ce qui était au départ « je ne suis pas assez », à la fin, était vraiment « je ne suis vraiment pas assez ». Et cette croyance de fond-là m'a amenée dans cette consommation, toujours avec des avantages perçus, parce que souvent, c'est ce qui arrive. Il y a un certain moment de notre vie que ces dépendances, cette addiction nous sert. Mais un jour où elle ne nous sert plus, elle nous dessert. Et c'est souvent les mêmes raisons pour lesquelles on a commencé au départ qui, à la fin, en fait, ça devient le contraire. En fait, plus on boit, moins on se sent bien, plus on se sent malheureux. Et plus on se sent malheureux, moins on se sent assez, plus on boit. On connaît le cycle. Donc, évidemment, c'était les croyances qu'il y avait derrière tout ça. Puis un jour, ben oui, j'ai arrêté. Et j'en ai parlé longuement dans un article sur mon blog qui s'appelle « Comment je suis devenue sobre » ou « L'histoire de ma sobriété ». Je ne me souviens plus du titre, mais c'est vraiment l'histoire de mon ami rouge avec une bouteille, une histoire de ma fréquentation avec cet homme trouble qui m'a fait plein de promesses qu'il a livrées au départ, mais par la suite, ça a mal tourné. Mais tout ça pour dire que les croyances, en fait, derrière ça étaient des croyances fausses. Parce que 3 ans plus tard, je peux vous dire que oui, je suis capable de passer non seulement une journée, mais plusieurs années sans alcool. J'adore ma vie sobre et j'aime sentir tout. Les peines, les joies, la tristesse, la solitude. Oui, ça m'arrive encore de me sentir anxieuse. Et j'ai des outils maintenant, puis mes croyances ont vraiment changé. Maintenant, je sais que je suis assez. Je sais que ce que je suis suffit et que je sais que l'alcool ou autres substances ne vont pas me rendre une meilleure personne ou ne vont pas me donner l'illusion que je suis meilleure. Je sais que j'écris beaucoup mieux quand je ne bois pas, quand je suis sobre. En fait, et je sais aussi que je suis capable de me transformer. Je sais que j'ai des forces intérieures vraiment exceptionnelles et qui sont tellement exceptionnelles qu'ils me permettent d'aller chercher les bonnes personnes pour m'aider. Et ça, c'est une de mes plus grandes croyances, c'est que, en fait, je sais quoi faire pour aller mieux. Je sais vraiment quoi faire pour aller mieux, pour changer les choses. Et ça ne veut pas dire que c'est moi qui le fais, dans le sens que je sais que parfois j'ai besoin d'aide et j'ai besoin d'être accompagnée. Et je sais être accompagnée et je sais choisir les bonnes personnes pour m'accompagner. Mon équipe A, comme je dis souvent, et comme j'en parle abondamment. Alors, c'est le voyage au pays de mes croyances, de ma consommation d'alcool, de mon habitude qui ne me servait plus et que je continuais quand même à faire. Alors, ma question du jour pour vous, c'est quelle est cette habitude qu'il y a dans votre vie qui ne vous sert pas, mais que vous continuez de faire? Quelle est cette habitude dans votre vie qui ne vous sert pas? Puis là, on est sur un continuum. Peut-être que cette chose-là est très minime. Peut-être que cette chose-là est plus grande. Peut-être que c'est juste que vous vous parlez de façon destructive, que vous avez pour vous des mots durs, des mots méchants, que vous avez pour vous des mots dénigrants. Quelle est cette habitude qu'il y a dans votre vie qui ne vous sert pas, qui ne vous sert plus? Et d'après vous, quelles sont les croyances qui se cachent derrière ça? Quelles sont les croyances qui alimentent cette habitude? Quels sont les bénéfices que vous retrouvez de cette habitude qui ne vous sert plus? Et est-ce que ce bénéfice est un vrai bénéfice, un vrai avantage ou c'est simplement un faux ami déguisé en avantage? Sur ce, je vous laisse jusqu'à la prochaine épisode et n'oubliez pas que c'est juste une croyance.